de Nietzsche.
Oui. Que radicalement étranger à ces tentations politiques de...
Du surhomme ou de...
Oui. Le surhomme, ça me paraissait... Je dois dire qu'il y a tout le côté ironique qui joue chez moi, avec l'esprit critique. Le surhomme, ça me paraît... Quand on voit la difficulté que la moyenne des humains ont à devenir des hommes, je trouve que le surhomme, la barre est portée trop. De 100 mètres trop haut.
On a cité tout à l'heure un auteur que Henriette vous avait fait découvrir, qui est Kafka. Dans Kafka, je pense au château, au procès, on a une vision de la vie collective, du social, d'une dégénérescence de la bureaucratie qui devient une fin dérisoire pour elle-même, alors que ce n'est qu'un moyen. Vous avez été marqué par ces idées de l'Europe centrale, de ce scepticisme juif, des intellectuels juifs, où on croyait, on était... Bon, il y avait une ironie et une sorte de description utopiste et réaliste.
Une fois encore, ce n'est pas venu d'eux. Au contraire, si j'ai eu des sympathies pour Musil, par exemple, à une époque où il n'était pas encore célèbre, ou pour Roth, grâce à Henri...
Joseph Roth. Adèle qui marche.
C'est tout simplement parce que je partageais leurs idées.
Leurs idées, d'accord. Ce n'est pas une influence, c'est plutôt une convergence, une rencontre. Tout à l'heure, vous nous avez cité... Daniel. Oui.
Alors, pour un auteur plus local, quelqu'un comme La Boétie, est-ce qu'avant-guerre, vous l'aviez lu ?
Je l'ai lu sur le tard, oui. Il y a quelques années, avec Montaigne.
Avec Montaigne.
Je l'ai lu pour précisément rédiger ce chapitre.
Oui, tardif, cette lecture.
Les témoins de la liberté.
Alors, ces quatre témoins de la liberté, vous aviez cité Rousseau, Montaigne, Rousseau.
Rousseau, d'abord, je l'ai mis exprès avant Montaigne, et je trouve que Montaigne est beaucoup plus proche de nous que Rousseau, qui a un côté idéologue.
Oui, pompier, néo-antique.
Tout en sachant très bien que Rousseau est un personnage capital, parce que c'est un prophète de la modernité.
Justement.
Il a tout découvert, il a été le premier à... aimer la nature de façon consciente, à pratiquer l'éducation moderne sous l'angle du développement de la personne enfantine. Il est à l'origine aussi, Rousseau, de la première fois où l'individu ose parler de lui-même en essayant de ne pas se mentir et se mentir, vous voyez, c'est vraiment un personnage énorme. Et il est aussi à l'origine, d'une certaine idée de la société fondée sur la réunion, sur un total de liberté. À mon avis, le contrat social... Bien entendu, j'ai lu et relu le contrat social, tout en me sentant très étranger à cette espèce de reconstruction logique, qui d'ailleurs à la fin bute sur le problème spirituel et où il finit par avouer que la réalisation du contrat social suppose une religion civile, c'est-à-dire soit la sacralisation du politique, soit l'arrière-plan. Une foi spirituelle, chrétienne ou autre,
Vous le mettez donc en tête, mais ensuite vous citez Montaigne.
Je passe à Montaigne parce que Montaigne a été bien plus Rousseau en individu. Parce que chez Rousseau, il y a le côté cabot qu'on a retrouvé dans toute la littérature moderne. Parler de soi, de ses faiblesses, de ses petites cochonneries, ça finit par devenir de l'exhibitionnisme.
Oui, les penchements romantiques.
C'est ça, il est romantique à ce point de vue-là.
Mais Montaigne est plutôt...
Tandis que Montaigne est beaucoup plus calme, pudique, si vous voulez.
Au fond.
Qui ne tient pas de grands discours, il se contente de parler de lui tel qu'il se voit. Il n'y a qu'une petite faiblesse, évidemment, c'est qu'il aurait pu prendre son exemple de repli devant la peste de Bordeaux, c'est ce qu'on peut lui reprocher, mais en dehors de ça, il n'y a rien à dire. Sur ses sources religieuses, il est un peu comme moi, il me dit avec le pater, ça me suffit. Les théologies, je m'en fous.
Vous citez après deux autres auteurs, plus difficiles, Berdiaïev et Dostoïevski.
Oui, c'est-à-dire Berdiaïev, si vous voulez, singe le christianisme de Berdiaïev est très proche de mon constat que la liberté, nul ne peut la définir d'avance, mais on peut dire avec une grande fermeté le seul lieu où elle existe, un individu. Elle est individuelle, il n'y a rien à foutre. Vous parlez comme Pérou de
la communauté.
La France aussi est une personne, ça va signifier qu'elle va sacrifier toutes les personnes qui la composent à la sienne. Voyez, si vous voulez, vous ne pouvez parler de la liberté qu'à partir de l'individu, mais où je me sépare de Stirner,
oui,
c'est que cet individu, pour moi, c'est très difficile d'ailleurs à faire comprendre, c'est l'individu existant, que chacun de nous, que quelqu'un est. C'est ça. Et alors, à partir du moment où on la pose en fonction de ce lieu, cette liberté n'est plus celle exactement du contrat social, elle n'est plus celle de M. Pérou, ni de quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle est dans sa véritable réalité.
Et Dostoïevski, c'est quand même une liberté où on retrouve à nouveau, j'allais dire, la difficulté d'être libre avec le tragique, la contradiction. Bon, les choses non positives de la liberté. Alors, Dostoïevski, bon, pourquoi et...
C'est-à-dire que je distinguerai dans Dostoïevski, si vous voulez, on pourrait dire l'être social et la personne libre. Et la personne libre s'exprime dans la parabole du grand inquisiteur. Si vous voulez, c'est un chrétien, hein, mais un chrétien qui va vraiment à la racine, à la source de son christianisme, c'est-à-dire qui pour ça commence par être un critique impitoyable, si vous voulez, pour voir à la fin ce qui est vraiment dur, qui résiste et qui n'est pas une illusion et un mensonge, ce qui lui fait dire que les critiques, il est allé beaucoup plus loin que les critiques qui n'étaient pas chrétiens, si vous voulez. C'est l'autocritique, la parabole du grand inquisiteur. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que il y a un autre Dostoïevski qui fait demi-tour, si vous voulez, après ça, alors qu'il devient, par exemple, un nationaliste slave qui réclame Constantinople, ou bien un militant de l'Église orthodoxe qui tape sur l'Église catholique, quoi, qui dénonce l'impérialisme papiste, quoi, etc., etc. Et en même temps, un écrivain qui, ma foi, exprime aussi ses fantasmes. Et il faut bien dire, dans la vie privée, un parfait faux jeton, soucieux, qui a été mis au pas par le bon Nicolas Ier, qui lui a fait faire un petit séjour ailleurs, qui l'a rendu beaucoup plus respectueux, vous voyez. Alors il y a deux Dostoïevski, mais je peux dire la parabole, c'est un des rares textes, comme je dirais, de la mort d'Ivan Ilitch, pour ce qui est de la mort d'un individu, c'est un texte inspiré.
Inspiré. Mais dans ces chrétiens individualistes, bon, dans le christianisme, quoi qu'il arrive, il y a toujours en dernière instance, j'allais dire, la fuite de l'individu assumé, libre, c'est-à-dire l'Église, la communauté, la fusion avec l'éternité, avec Dieu, avec autre chose que l'individu lui-même. Alors, est-ce que vous vous solidarisez du christianisme jusqu'au bout, ou est-ce que vous l'accompagnez uniquement quand il affirme à nouveau la théorie de la personne individuelle? Est-ce que vous l'accompagnez jusqu'au bout?
Je ne l'accompagne pas jusqu'au bout pour une raison qui est très objective, c'est que cette Église qui se prétend comme une communauté de pur esprit, hein, en contact direct avec le divin, en réalité, l'homme fait preuve maintes fois de son caractère minable et relatif, partout, avec toutes les complaisances sociales et même grossièrement politiques de son histoire. La seconde raison, elle est personnelle, si vous voulez. Je crois qu'en matière de fondement spirituel d'une pensée, le premier devoir, c'est d'être clair avec soi-même. Et tout bêtement, c'est idiot, hein, mais tout bêtement, je me sens chrétien quand je lis les béatitudes, par exemple, quand d'autres textes inspirés, comme la parabole du grand inquisiteur, me semblent s'accorder avec ma pensée, ça va. Mais je ne le suis plus du tout, parce, si vous voulez, j'ai souvent dit que ce qui faisait de moi un chrétien, ou plutôt un post-chrétien, c'est que le Christ, je le suis jusqu'au cri le plus étonnant qu'un Dieu ait jamais jeté à la face de l'univers, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chose extraordinaire, c'est la seule chose qui me ferait croire à la divinité du Christ, parce que le propre des dieux, c'est d'être tout-puissant et immortel, et Dieu humain. Et que précisément, là, c'est vraiment le Fils humain de Dieu qui s'exprime dans cette désespérance finale. Mais alors, je ne suis plus sans qu'il ressort avec tambour et trompette de son tombeau qu'il ressuscite. Je n'en ai pas besoin. Si j'en aurais besoin, oui, je serais très content. Dieu, certes, je ne suis qu'un homme, mais...
Tu n'arrives pas à y croire.
Je n'arrive pas à y croire. Ouais. Alors, je ne peux pas me dire chrétien. Ce serait une tricherie. Je suis post-chrétien.
Tous ces hommes que vous avez côtoyés dans ces mouvements non-conformistes, bon, ils formeraient, dirions-nous, une génération. Comment définir votre génération en termes lapidaires, en dehors de votre propre pensée, de vos valeurs, des fondements de votre pensée spirituelle? Comment la définir? Quels seraient les mots d'ordre, ce qui la caractérise jusqu'à la guerre? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à tous ces hommes, au-delà de leurs différences? Tout ce qu'on a cité
jusqu'à la guerre.
Jusqu'à 40. Hein. Après, nous parlerons de ces hommes pendant la guerre, brièvement. Oui, avant d'aborder l'après-guerre, la modernité.
Je pense à ce moment-là à quelqu'un qui était vraiment de cette génération, parce que moi, au fond, la coupure, c'est 14 hein, pour moi, beaucoup plus que 40. Hein. Oui. Je pense au père d'Henriette. Je crois que cette génération avait en dépôt un héritage d'une prodigieuse richesse qui remonte peut-être même à la naissance de l'Homo sapiens, qui était grec, qui a été chrétien, qui a même par contamination avoir subi d'autres influences, et que malheureusement cette génération n'a pas osé confronter ses valeurs et ses richesses aux prodigieux changements que le progrès scientifique et technique était en train d'opérer. C'est ça ce qui parle. Et alors elle était en contradiction et elle a refusé la contradiction qui seule aurait pu être féconde et engendrer les pensées et les actions qui devaient se réaliser.
Pour cette génération, la modernité, pour beaucoup je parle, c'était plutôt la démocratie, la culture de masse, l'émergence des masses dans l'histoire et le progrès. Oui. Pour vous, la grande mue, c'est plutôt l'arrivée de la technique, de la déshumanisation, de la fin, depuis l'Homo sapiens, d'une civilisation.
Oui. Si vous voulez, côté humaniste, côté, je dirais pas égalitaire, mais certainement démocrate, je dis souvent que je suis un homme de gauche par mes valeurs, mais je n'en suis absolument pas un en face du fait sociologique que nos sociétés opposent une gauche à une droite, et je ne me reconnais pas dans la gauche, quoi. Je ne vois à plus forte raison dans sa dégénérescence totalitaire. Que de même que je trouve que la droite a parfaitement trahi ce qui était sa fonction, c'est-à-dire de rappeler à la gauche qu'il y a une nature, qu'il y a une société, que quand on veut la changer, il faut commencer par se demander en quoi elle est nécessaire à l'homme et dans quelle mesure on peut la bouleverser.
Nous avons des hommes comme Bataille, Caillois, Armand Petitjean dont on pourra parler, et d'autres qui ont, recherché leur voie, et De Becker aussi, qui ont recherché leur voie vers la mythologie, le retour au sacré, à une nature recomposée, à des valeurs, extra-sociales. Ils ont peut-être fui la modernité sociale de leur temps, en essayant de revenir, comme d'autres, vers le christianisme, les personnalistes catholiques, vers une sorte de communauté de l'âge d'or, une utopie. Est-ce que vous pourriez me parler de ce courant mythologique, un peu, comme Caillois, Bataille, et aussi me parler d'Armand Petitjean, qu'on va retrouver peut-être plus tard.
Ce Armand Petitjean, je ne l'ai rencontré qu'après la guerre. Alors là, je l'ai connu personnellement, séjourné chez lui, etc.
Mais les autres, et même lui.
Mais Bataille, si vous voulez, je ne l'ai connu qu'en grande partie par l'intermédiaire, par ses livres, bien entendu, et par l'intermédiaire de mon ami Pierre Prévost, qui a été son rédacteur en chef à la revue Critique. Vous voyez ? Et je dois dire, il m'a fait rencontrer Bataille pendant la guerre. L'évidence, c'est qu'il n'y avait aucun atome crochu.
La voie qu'eux recherchaient n'était pas la vôtre.
J'ai même l'impression, si vous voulez, je dirais en moraliste, que ces réactions vers un passé définitivement aboli par la révélation chrétienne, grecque et tout ce qui a suivi, a quelque chose de malsain, si vous voulez. Parce que ce sont des gens qui se veulent ultra-moderne en étant ultra-réactionnaire, vous voyez. Et alors Bataille, même Bataille, il faut mettre en cause le personnage, quoi. Vous savez que c'était, il faut bien appeler ça, des traqués sexuels, un sadomasochiste qui a passé sa vie à rechercher une jouissance qu'il ne pouvait obtenir que par des flagellations. Et en même temps, le propre de ces, on peut dire, de ces
êtres torturés,
extrémistes de droite, quoi, c'est de rêver d'un passé qu'ils ne peuvent pas connaître, où ils ne vivraient pas 24 heures, quoi.
Et Caillois ?
Caillois, je crois que Caillois, c'est quelqu'un de plus tempéré que Bataille, qui a fui dans la littérature. D'ailleurs, c'est un des reproches que je fais à cette tendance, c'est que de même qu'à gauche, ce sera la politique, à droite, c'est la fuite, parce que c'est la seule, la moins risquée dans l'art et la littérature.
Dans l'esthétisme pur, la fuite.
Je considère que Malraux, par exemple, pour moi, surtout maintenant, beaucoup plus dans ma jeunesse, est un homme de droite.
Malraux, vous avez influencé ou non dans ses lettres ?
Un peu, au début, quand j'étais jeune. On a toujours le goût de la violence quand on était jeune. Alors, ça me plaisait, Malraux, cette guerre inoffensive qu'on vous décrit dans un bouquin, vous comprenez, c'est tout.
Et déjà le mythe des héros, héros incarnant seul. Est-ce que vous avez été, avez-vous connu cette tendance de la jeune droite qui composait d'anciens d'Action française pour la plupart? Je pense à Jean de Fabrègues qui a créé la revue Civilisation, Combat civilisation, pour la civilisation. Je pense à Molnier, avec aussi...
Molnier qui est d'ailleurs un peu plus... Thierry Molnier.
Oui.
Qui a été, il faut dire, plus intelligent que Jean Fabrèche, etc.
Oui.
Parce que Molnier a eu de vagues rapports avec l'ordre nouveau.
Oui, d'accord. Mais Fabrègues, non.
Je ne crois pas.
Quand vous parlez de rapport avec ordre nouveau, et dans ordre nouveau, il y avait donc plusieurs tendances.
Non, mais il y avait surtout le besoin de constituer, alors ça aussi, ça m'était étranger, une espèce, je crois que c'était très marqué, ça comprend, ça explique par exemple la conversion de mon ami Prévost à la franc-maçonnerie ésotérique. Il y avait le besoin de constituer
une synarchie,
une espèce de secte spirituelle fortement intégrée.
Et alors, ce que je trouve étonnant, 1940 arrive. C'est une situation qui est aussi dramatique que 14, qui est moins triomphante pour la France.
Oui,
il y a un effondrement. Alors, ces hommes, ces non-conformistes que vous avez connus, ils vont avoir des réactions bizarres. Tous ceux qui critiquaient finalement la modernité, qui parlaient de crise de civilisation, vont s'intégrer et devenir des conformistes en suivant Pétain, en suivant la Révolution nationale, en jouant le jeu des pouvoirs dans la jeunesse, dans la culture. Bon, je pense à Armand Petitjean et à d'autres.
Ouais.
Et votre analyse de Mounier. Alors, c'est ça que j'aimerais que vous me précisiez. Comment vous les jugez, ces revirements de cette génération du refus?
Il faut avoir vécu la guerre pour répondre.
Il faudrait expliquer que la guerre, juin 40, a été pour moi une révélation, si vous voulez, de la faiblesse personnelle en face des écroulements ou des convulsions sociales, si vous voulez. J'ai vu, je me suis retrouvé absolument seul. Dans la guerre, pour moi, ça a été la traversée du désert. Normalement, j'aurais dû probablement rentrer dans la résistance, mais ma vocation ne m'y portait pas, parce que j'avais vraiment de plus en plus clairement que mon devoir c'était de porter cette découverte, de porter, de communiquer cette découverte de la
mue
radicale de l'espèce humaine, puisque personne n'avait voulu la partager avec moi, je me suis juré, et ça a été d'ailleurs fait dans un serment solennel en juin, dans une cabane de la vallée de Nistos, en haute montagne.
En juillet 40.
Devant mes
en juillet,
amis,
non, en juillet 39.
Mon ami Robert. Pas de Robert, Robert, mon ami Robert, qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce camp de Nistor?
Henri Céresuel.
Le père de Daniel, et puis alors les frères Boiteux aussi.
Pas les frères, mais Henri Boiteux.
L'aîné des Boiteux, vous savez, le directeur.
Henri Boiteux, mais Marcel n'y était pas.
Vous savez, des intellectuels de formation.
Et quel était le contenu de ce serment-là?
Ce serment, j'ai juré à haute et intelligible voix, si vous voulez, que quoi qu'il arrive, quelle que serait ma tentation de m'intégrer pour combattre la menace qui pesait sur la liberté, je me consacrerai. Je resterai seul à faire tout ce que je pourrais pour conserver cette connaissance et la transmettre.
Et témoigner.
Et c'est ce qui est arrivé, le résultat. D'ailleurs, j'ai vu l'ordre nouveau illico se disperser, ça a commencé. Il faut vraiment dire que je disais que la guerre a été pour moi la révélation de la faiblesse humaine. L'ordre nouveau dispersé d'abord chez Pétain. Ensuite, mon ami Pierre Prévost, je me rappelle juste après l'écroulement, je le rencontre. Alors, je commence à plaisanter. Je me suis aperçu sur le maréchal. J'aime autant vous dire que je tombais bien. Bon, autre exemple, l'abbé Lacaze. Je me suis dit, ce grand curé non-conformiste et libéral qui s'était mobilisé avec enthousiasme contre le Troisième Reich pendant la période de la drôle de guerre. Je le retrouve à Bordeaux, je me sens tout seul, cette fois devant le triomphe total de l'armée allemande. Hein. Alors, je vais au moins fraterniser, je m'adresse à lui, je tombe sur un type qui était devenu collaborateur. Alors,
enfin, là, botaniste au moins.
Alors je lui médite donc, vous changez d'idée en quelques semaines. Et alors, il m'a dit, je lui dis, mais vous, et le jour où les communistes arriveront peut-être au pouvoir, il m'a répliqué, alors je me ferai communiste. C'était le cas. Alors, vous vous rendez compte de ce qui reste dans la cervelle d'un homme jeune devant ce genre de révélation, c'est au bout qui a mis sa place.
Nous avons eu, au camp de Nistos, le dernier camp avant la guerre, nous avons eu un philosophe, un ancien élève de mon père, qui s'appelait Vigneault, et qui était un pacifiste intégral.
Et puis, il faut dire catholique libéral. Hein,
enfin, j'en sais rien, je ne sais pas, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il était pacifiste intégral et il était décidé à résister par tous les moyens au courant guerrier. Et après ça, à la fin de la guerre, on l'a retrouvé transformé en militaire, quasiment.
Et oui, hein, en militaire.
Militaire
qui, toujours en bonhomme de gauche, il était au Maroc. Alors il me racontait, si vous avez vu, il y avait une délégation de cavaliers russes. Ouais. Oh, mais alors c'était bien mieux que le cadre noir.
Ouais.
Si vous voulez, mirant les bottes luisantes, la stricte discipline, le chic.
L'évolution de Mounier pendant la guerre, comment l'évaluez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois qu'il a suivi la conjoncture. Non, c'est très simple, si vous voulez. Anti-nazi pendant la drôle de guerre, nous le voyons autour du pétanisme comme étant le faux pas de sa mobilisation dans la croisade anti-bolchevique. Et puis, quand
vous êtes sûr de vous là,
c'était avant la,
oui. Pas longtemps, hein,
avant la rupture entre, c'était juste au moment de la rupture. C'était et quand il a vu que 41. Ça se prolongeait.
Mars 40, avril 40.
Alors, de nouveau, devenant résistant, si vous voulez, préparant l'avenir et au lendemain de la guerre.
C'est dommage, c'était dans le dictionnaire des Girouettes, cette citation, il ne l'a pas inventée.
Pourriez-vous me parler d'Armand Petitjean, même si vous l'avez connu après? Mais que pourriez-vous me dire de lui? Parce que sous Vichy, il est important et lui aussi va dans le vent du pétainisme.
C'est un personnage mystérieux.
Je crois que, si vous voulez, Armand Petitjean, il y a eu, au moment de la libération, pour tous ceux qui s'étaient un peu trop avancés dans la mauvaise direction, une période sombre. Alors, il y a eu chez Armand Petitjean un sentiment d'échec très fort qui explique son retrait à la Baume, loin de Paris, si vous voulez.
On présume, parce qu'il est quand même très mystérieux. Il est très mystérieux, c'est un homme très secret, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé,
oui,
mais quand nous l'avons connu...
Je m'explique ça, c'est pas pour rien que Bergès rappelle la période pétaniste. Et
ça
imagine quelqu'un qui est marqué au moment de la libération, il faut s'écraser. Hein.
Il s'est consacré aux affaires pendant... Il était plus ou moins patron de L'Oréal.
Oui.
Il s'est consacré aux affaires.
C'est le réseau de L'Oréal.
Oui.
Ben, il était à l'origine de ce colossal trust, qui est, je crois, le premier de France. Comment ça s'appelle?
L'Oréal.
C'est L'Oréal.
L'Oréal, oui. Et
oui,
d'ailleurs, il nous a raconté...
Alors, lui, que cette célèbre marque de parfum...
L'Anvin.
Non, c'est pas l'Anvin, c'est Brune.
Mais pourquoi tu me comprends quand je te parle de L'Oréal? L'Oréal, c'est...
L'Oréal.
Ah oui,
c'est
mais parce parfums. Qu'il a vendu. L'Oréal s'est constitué après la guerre... Et alors, Petitjean a vendu cette grande marque.
Oui, mais il a quand même été le PDG pendant des années. Si vous voulez, je crois qu'il y a eu un intermède, plus ou moins, d'hommes d'affaires. Là. Et dans les années écologiques, il s'est retiré à la Baume. Et c'est à ce moment-là qu'on a connu.
Oui.
On a connu à partir de 70.
Et il était dans quel courant, dans les années 30 à 40? Il vous en a parlé? Comment il se situait?
Il était dans ce courant, vous savez, où des gens, parfois plutôt d'origine de gauche, étaient quand même séduits par le côté, on aurait pu dire, populaire, et puis aussi magique, quoi, du mouvement nazi, du totalitarisme d'extrême droite, quoi.
Je crois qu'il a beaucoup admiré Junger.
Dis donc, le fondateur, le fondateur des auberges de jeunesse, tiens, par exemple, dont j'ai oublié le nom une fois de plus.
Auberge de jeunesse.
Qui est devenu ensuite un collaborateur, même je crois qu'il s'est engagé à la Légion des volontaires anti-bolcheviques. Non, il y a eu toute une frange, si vous voulez, qui a subi le choc de la victoire et du prestige de la victoire allemande, quoi. Et certains se sont compromis, même un peu trop loin, quoi. Tandis que les prudents ont dit tout de suite que c'était provisoire et qu'il valait mieux attendre.
Il y a eu des non-conformistes, pour être juste, qui étaient résistants.
Ah, mais il y a eu, vous savez, mais ce sont des inconnus, en grande partie. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est, dans la première phase de la guerre, je dis souvent, c'est le seul moment où j'aurais été tenté, vous savez, par non-conformisme, par anticonformisme, de m'engager dans une petite cellule de résistance. Parce qu'il faut réaliser à quel point la victoire allemande avait été écrasante. Ouais. C'est pas les corps qui ont été vaincus, ce sont les esprits. Il n'y avait personne à ce moment-là. La résistance, c'est pas compliqué. Plus la force allemande s'est affaiblie, plus vous voyez la résistance monter. La résistance, un bon historien doit mettre la date du débarquement d'Afrique du Nord, par exemple, en...
Alors moi, je dirais quand même qu'il y a eu un départ, c'était l'attaque de l'Allemagne, l'attaque de la Russie par l'Allemagne.
Oui.
Parce que, si vous voulez, avant, les communistes n'étaient pas des résistants.
Ah, non, non,
non. Bon, oui. Alors, à partir de 1941, effectivement, ils sont entrés dans la résistance.
Eu, c'est vrai, Henriette a raison de dire, il y a eu la première marche de l'escalier qui a permis de sortir de l'abîme, de la défaite, ça a été la mobilisation des communistes qui avaient tenté de collaborer avec l'envahisseur. Après le pacte germano-soviétique, la seconde marche, c'est le déploiement de la puissance américaine en Afrique du Nord.
Dans les années quand même 36 à 38, bon, il y a l'affaire de la guerre d'Espagne. Vous, vous étiez dans vos camps, vous n'étiez pas loin de la frontière.
Je n'étais pas loin de la frontière.
Et on voyait monter le nazisme, là. Il y avait quand même, bon, dans le personnalisme de Mounier, ou d'Esprit, il y avait des gens, je pense à Touchard, et puis surtout à, par exemple, à Linhart et à d'autres, qui considéraient que la paix était en danger, que le fascisme montait en Europe, et, bon, l'engagement a commencé avant 40 pour beaucoup de non-conformistes qui étaient anti-totalitaristes. Comment vous avez, vous, perçu la montée de du péril?
Si vous voulez, il faut revenir à ce qui est mon engagement fondamental.
Personnel, hein, spirituel.
Parce que, si vous voulez, toutes mes sympathies allaient du côté des républicains. Et je me disais que quelqu'un de mon âge devait s'engager de ce côté-là.
J'étais tenté un peu.
J'ai été un peu tenté. Je crois que si mon ami de Grenier n'était pas mort, on aurait été bien foutu de franchir les Pyrénées, de faire ce genre de conneries. Et d'aller au secours d'une guerre perdue. Mais c'est tout, quoi. Si vous voulez, une fois de plus, j'ai toujours senti en moi, si vous voulez, mon être social et mon esprit personnel en rapport confus qu'il fallait éclaircir.
Quel a été, au niveau, en dehors de cette période et du rapport au politique en définitive, bon, l'influence, on revient un peu à la discussion de ce matin.
Oui, mais je voudrais revenir à une remarque que me faisait Henriette.
Oui, oui, oui.
Mais peut-être qu'il vaut mieux que tu la fasses, toi.
Oui, quand vous avez parlé de la politique en général, est-ce qu'il avait été tenté par la politique, je voulais quand même bien marquer qu'il s'est toujours intéressé à la politique, c'est-à-dire qu'il l'a toujours suivi de très très près, et c'est ce qui fait qu'il a tenu des chroniques un petit peu après la guerre, hein, et qu'il avait animé ce club de presse Bon, avant,
oui, mais c'était après. Dans l'idée de m'en dégager.
Oui, mais c'est ça ce qu'il y a
d'un moyen.
C'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a justement de paradoxal et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, que tu puisses être à la fois passionné, intéressé par la politique et complètement quand même désinfecté du point de vue
de l'engagement dans les organisations.
Voilà.
Ouais. C'est de même que, si vous voulez, on ne peut prendre une distance critique vis-à-vis du fait économique et social, ce ne sera pas en le fuyant. Ce sera au contraire en le considérant face à face et en le découvrant pas seulement dans l'environnement immédiat, plus que dans les livres, mais en soi, étant soi-même un terrain où se livre la première bataille.
Vous n'avez jamais admiré un homme politique, quel qu'il soit, de Gaulle ou d'autres ?
Aucun. Je dois dire que de Gaulle, j'ai écrit un petit papier, je trouve que c'est de la mythologie pure d'en faire un grand homme, tout ce qu'on raconte sur lui, sauf le démarrage. Hein, et encore, ça peut être interprété comme un ambitieux qui poursuit une carrière ministérielle ailleurs. Hein.
Tu n'as admiré qu'Henri IV.
Je n'ai admiré. Comme politique, je n'ai qu'une admiration, c'est Henri IV. Ça, c'est merveilleux pour un petit homme qui n'a pas été mobilisé dans une guerre, qui ne s'est jamais battu. Je trouve merveilleuse cette humanité qui est celle d'un guerrier casqué et cuirassé qui passe toute sa vie à se battre pour mettre fin à la violence. Je trouve ça très beau, c'est Henri IV, et en même temps un peu bézouilleur, mais c'est normal, etc.
Bon vivant.
Ah, je trouve, il n'y en a pas beaucoup hein, d'hommes politiques respectables. Ça se comprend. Le système, ça consiste à essayer de faire passer un peu d'esprit dans de la viande.
Non, je pensais comme homme politique, même un type comme Churchill.
Et je trouve que quand même très estimable. À un moment donné, effectivement, est aussi à sa grandeur quand l'Angleterre, complètement désarmée, dit non à la toute-puissance du Reich, protégée, il faut dire, par une solide ceinture de cuirassés et l'océan, la mer.
Vous n'avez jamais cru, ayant d'ailleurs un beau-père qui était un homme de gauche, vous n'avez, et puis engagé dans des valeurs, vous n'avez jamais cru en la valeur, à partir de l'exemple de 1917, bah, notamment de la Révolution populaire, ou de l'exemple de l'Allemagne de 1920, des conseils ouvriers européens en Espagne ou en Italie, des années 1917-18 à 1921. Vous n'avez jamais cru à la Révolution socialiste ou communiste?
Je n'ai jamais été tenté, et pour la raison fondamentale, c'est qu'elle ne posait pas mon problème, si vous voulez. Le communisme, c'est la croyance au progrès, le développement industriel, etc., etc., tout ce que je critiquais. Et puis alors, très vite, ce qui s'est révélé, c'est le totalitarisme, enfin, c'est-à-dire le culte de l'anéantissement de l'individu dans la discipline collective, le réalisme impitoyable qui fait que ma foi on fait le contraire de ce que l'on prétend faire parce que la réussite excuse tout, etc., etc.
Dans le fascisme de Mussolini, vous avez, parce que beaucoup de jeunes bordelais, je pense à Maurice Duverger et à d'autres, beaucoup étaient fascinés par le modèle corporatiste italien, ou alors à l'inverse, d'autres par le modèle, je pense à Mitterrand et à d'autres jeunes, salazaristes, ou de la première phalange de Primo de Rivera, c'est-à-dire d'un catholicisme national non totalitaire et d'un fascisme non totalitaire. Bon, est-ce qu'il y a eu une réflexion de votre part, soit dans les groupes esprits, soit après, dans les camps jusqu'à la guerre, ou une réflexion sur le fascisme, le corporatisme non allemand, alors là?
Oui, c'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, c'était l'écume à la crête de la vague. Et que ma préoccupation, c'était la vague. Si vous voulez, ceci dit, cette écume me paraissait de l'écume, c'est-à-dire parfaitement absurde, et finalement meurtrière. Quoi, je n'ai jamais eu l'ombre Je vous ai dit que instinctivement j'étais de gauche, quoi. Rattaché à des valeurs de gauche qui me rendaient complètement étranger à cet aspect.
Puis il y avait un côté cabot dans Mussolini qui était évident. Oui,
évident. Dans l'analyse de la modernité, je pense à une littérature un peu critique parfois. Venant d'hommes qui critiquaient non plus la machine, la technique, mais la bureaucratisation du monde. Je pense à Burnham et à d'autres. Est-ce que vous avez lu certains ouvrages sur l'administration, sur la rationalité non plus mécanique, mais abstraite dont vous parliez tout à l'heure, la bureaucratisation? C'est plutôt après la guerre, pendant les années 37, 38, 39.
Oui, pense alors, quel est ce sociologue allemand là?
Il
y a Weber d'abord, mais Weber on peut dire, un artisan de cette rationalité. Il y a les deux chez Weber, il y a la critique, la pensée de Weber.
Zombart.
J'avais été assez influencé par la pensée de Zombart. Parce que, il faut vous dire qu'à l'époque, les historiens, une fois de plus, s'intéressaient, vous savez, au plus superficiel. Il n'y avait que peu d'intérêt pour la structure économique et sociale. Alors, cette école allemande avait un grand intérêt par rapport à l'école historique française, du moins celle qui a précédé l'arrivée de Fèvre, etc., les annales. Cette école-là, depuis déjà longtemps, s'intéressait au phénomène et à l'évolution économique et sociale.
Je ne me rappelle plus, Simmel, il faisait quoi? Simmel, qu'est-ce qu'il avait écrit? Parce que moi, je ne me rappelle plus.
C'est traduit très tard, il a écrit un traité de sociologie.
Il a écrit un bouquin sur la philosophie de l'argent, qui est pas mal. Qu'on a retraduit récemment, qui est bon.
Et puis son traité de sociologie, où il y a des textes sur divers thèmes, notamment le secret, la confiance. C'était un sociologue des formes sociales et de la relation, je dirais, formelle entre les hommes. Mais c'est un sociologue qui n'est pas connu en France à l'époque. Non. Alors moi, je m'interrogeais, est-ce qu'il y avait une littérature américaine que vous aviez lue sur la bureaucratie et la critique de la bureaucratie?
Pas avant la guerre, je crois pas.
Mais vous me citez Zombart,
Zombart, il y avait, vous voulez, la critique de la modernité, elle était en avance en Amérique. Si vous voulez, par exemple, pour ce qui est, on peut dire, de l'embourgeoisement, de la massification, un roman comme Babbitt, par exemple, et bien d'autres témoignages.
Vous les aviez lus?
Sûrement. Puis il y a les films américains.
Les films, voilà. Les films. Métropolis, vous l'aviez vu à l'époque?
Je l'avais vu.
Parce que c'est quand même fabuleux, une préfiguration du mécanisme, même avant les films de Charlie Chaplin, le dictateur, les temps modernes. Ouais. On a quand même une idée de... Vous l'aviez vu, les temps modernes?
Bien sûr. Le cinéma, c'était le média de ma génération, parce qu'il n'y avait pas de télé, Si, j'ai tout vu, je peux dire, dans ce domaine. Et tout oublié.
Pourquoi avez-vous écrit dans l'esprit un article sur la publicité? Pourquoi ce thème? Parce que vous auriez pu, vu votre réflexion, votre pensée, aborder d'autres sujets.
C'était pour montrer que ce n'était pas la politique qui formait véritablement la société concrète.
C'était prophétique, alors.
Par exemple, les changements de mœurs était aussi bien dicté par une publicité qui ne se donnait pour but que la vente de produits, mais qui du même coup changeait les mœurs.
Alors, c'est dans à l'ère de la télévision.
Ce que c'est devenu, c'est en 37, là, votre premier article, finalement.
Oui. C'est pour vous dire si j'étais en avance.
Dans vos écrits de 38 à 40, quel thème abordiez-vous dans vos notes non publiées, qu'est-ce qui revient par rapport à ce qui existe encore, peut-être, de documents qu'il ne faut surtout pas donc brûler ou jeter? Qu'est-ce qu'il existe?
Je crois que c'est déjà fait.
Non, c'est empoussiéré, ça tombe en poussière. Mais c'est le moment où tu as commencé à écrire tes bouquins.
C'est le moment, si vous voulez, quand j'ai vu mon impuissance
vis-à-vis
de la catastrophe où allait être entraînée la société, je me suis dit, au fond, il ne me reste qu'un moyen de défense, que je n'avais aucune sympathie pour l'idée de fabriquer des romans ou de me libérer par l'écriture. Je me dis, je n'ai rien d'autre, eh bien, je vais essayer d'exprimer ce que j'ai connu.
Alors peut-être on pourra terminer par là, cette partie d'entretien. Vous avez donc, vous êtes mis à écrire, vous étiez toujours enseignant, agrégé d'histoire.
Oui, je venais de passer mon agrégation, je venais de rencontrer et d'épouser Henriette, et je, à ce moment-là,
c'était à Bordeaux,
j'étais professeur à Bordeaux. Oui, la guerre, j'ai vécu tout le début de la guerre au lycée Montaigne à Bordeaux.